Texte qui nous est proposé est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 14, les versets 1 à 14. Avant l'écoute de la lecture, prions le Seigneur. Père, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Tu te sers d'elle pour nous corriger et nous révéler ta volonté. Fais taire en nous toute autre voix que la tienne. Que ton Saint-Esprit se meut dans notre vie et se sert de ton serviteur pour nous parler. Bénis ces instants d'écoute. Éloigne de nous le sommeil, les distractions, au nom de Jésus. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 14, les versets 1 à 14. Là, nous lisons ce qui est écrit. Jésus étant entré un jour de sabbat, dans la maison de l'un des chefs des pharisiens, pour prendre un repas, les pharisiens l'observaient. Et voici, un homme hydropique était devant lui. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, « Est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat ?» Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, « Lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en retirera-t-il pas aussitôt le jour du sabbat ?» Et il ne put rien répondre de cela. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, en voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, « Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, « Cède la place à cette personne-là, tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise, « Mon ami, monte plus haut. » Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, « Lorsque tu donnes à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des voisins riches, de peur qu'ils ne te rendent l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Amen.
Oh,
Voilà.
Seigneur, bonsoir. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus. Si la discipline de notre Église ne prescrivait pas qu'après la lecture biblique, il fallait délivrer un message, je vous aurais demandé, ainsi qu'à moi-même, de nous asseoir et dans un silence méditatif, nous regarder à travers le miroir de la parole de Dieu. Parce que j'estime, pour ma part, que ce passage que nous venons de lire nous s'adresse à chacun de nous. Nous allons nous soumettre à la discipline de notre Église, c'est-à-dire nous allons délivrer le message. Mais, comme c'est le Saint-Esprit qui conduit l'Église, nous allons écouter le Saint-Esprit. La même discipline prescrit qu'une prédication ne doit pas aller au-delà de 20 minutes. Comme nous devons toujours obéir au Saint-Esprit, si dans 10 minutes, le Saint-Esprit me dit d'arrêter, je vais arrêter. Mais si le Saint-Esprit, après 20 minutes, me demande de continuer, je vais obéir. Amen. Pendant son ministère terrestre, Jésus a guéri beaucoup de malades. Il a délivré beaucoup de personnes qui étaient possédées. Il a opéré beaucoup de miracles. Mais Jésus n'était pas un guérisseur. Il n'était pas un chasseur de démons. Il n'était pas un faiseur de miracles. Il était avant tout et surtout le maître, l'enseignant de la parole de Dieu. Parce que de toute évidence, rien ne peut transformer une vie ou changer une situation comme la parole de Dieu. Bien entendu, pour que qu'elle change la situation d'une personne, il faut que la personne lui ouvre le cœur et reçoive favorablement la parole. À qui peut-on comparer quelqu'un qui reçoit favorablement la parole de Dieu? À une personne qui prend sa température, constate qu'elle a 42 degrés de fièvre et fait tout pour baisser la température au lieu de casser le thermomètre. Face à cette bonne attitude conseillée par la sagesse, on peut considérer une personne comme insensée lorsqu'elle prend sa température et que le thermomètre indique que sa température est anormalement élevée, au lieu de baisser la température, il brise le thermomètre. Bien-aimé, Dieu s'adresse à nous à travers sa parole. Et la parole de Dieu qui nous est adressée nous appelle au changement. Prenons par exemple, je lis dans ma Bible, fuyez l'impudicité. Quelle est la bonne attitude? Rester sur place ou fuir effectivement. Je crois que la sagesse conseille de fuir. Comme je l'ai déjà dit au début, Jésus était un enseignant. Et chaque occasion qui se présentait à lui, chaque situation était propice pour donner un enseignement. Le thème de ses enseignements était varié. Il pouvait enseigner sur les vérités fondamentales de la foi chrétienne. Nous nous souvenons que lors de la visite de Nicodème la nuit, il a enseigné sur la nouvelle naissance. Mais aussi, il saisit les situations de notre vie quotidienne, les invitations, les repas, les fêtes, les visites, pour nous enseigner. Pourquoi? Nous devons être suffisamment conscients de ce que nos attitudes, notre comportement en société, nos actions et notamment nos actes de bienfaisance ont une portée éternelle. Souvenons-nous des paroles de Jésus au sujet de l'image des boucs et des brebis dans Matthieu 25, verset 34. La portion de l'évangile selon Luc que nous venons de lire, nous présente Jésus en compagnie des pharisiens et des docteurs de la loi. Jésus a été invité un jour de sabbat par l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Rappelons que le mot sabbat signifie repos. Le jour de sabbat, on ne devait effectuer aucun travail. Même un scribe convaincu, le jour de sabbat ne devait pas parcourir une distance de plus d'un kilomètre, 100 mètres. C'était cela, la distance que la loi leur imposait. Parmi les invités mentionnés plus haut se trouvait un malade. Le terme l'appelle un hydropique. C'est quelqu'un qui a les œdèmes. Vous connaissez des personnes, certaines personnes s'asseyent, pendant un temps leurs pieds se gonflent. Mais quand on s'imagine que Jésus était avec les pharisiens, les docteurs à la loi, et que subitement, au milieu, on trouve un malade. Et surtout, un malade qui peut faire perdre l'appétit, puisqu'on était dans un repas. On peut se demander qui a invité cet homme. Et pourquoi? Au regard de l'attitude des pharisiens, le texte précise qu'il observait Jésus. Était-ce un piège tendu par les pharisiens à Jésus pour donner à croire que c'est possible que ce soit un piège. Nous savons bien que les prises de position de Jésus l'opposaient souvent aux pharisiens qui l'accusaient de violer le sabbat. Deux raisons peuvent expliquer cette opposition. Première raison. Les pharisiens, c'étaient les défenseurs acharnés de la loi. Donc, face à l'amour de la loi des pharisiens, Jésus opposait une autre loi, la loi de l'amour. La loi de l'amour permet que même quand on surprend une personne en flagrant délit d'adultère, au lieu de lapider cette personne, on peut la laisser. La loi de l'amour, contrairement à l'amour de la loi, permet qu'une femme infidèle ne soit pas divorcée. Deuxième chose qui opposait Jésus aux pharisiens. Au légalisme des pharisiens, Jésus oppose la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. Voilà ce qui opposait Jésus aux pharisiens. Et nous alors, est-ce que nous sommes pas aussi un peu des pharisiens? Au regard de la force ou de l'insistance que nous mettons sur l'application des règles que nous sommes fixées, par exemple dans nos réunions, on a tout un règlement intérieur. Et un certain nombre est écrit dans le règlement intérieur. Par exemple, si quelqu'un échoue la tontine, on va le frapper d'une pénalité de 20%. Et quand ça arrive, rien à faire, on te frappe. Dans nos réunions, on écrit, quand quelqu'un est malade plus de 3 jours, on débloque une somme de 10 000 francs. Et si la personne meurt, on débloque 500 000 francs. Dans les 500 000 francs, il y a la collation de la réunion, de membres de la réunion pour 200 000 francs. On remet 300 000 francs à la famille. Mais le jour des obsèques, les membres de la réunion ne seront pas contents si la famille ne les reçoit pas. Le légalisme. Finalement, nous nous rendons compte avec le légalisme, ce n'est pas l'homme qui est au centre. Mais pour Jésus, qui guérit un malade le jour du sabbat pour confirmer que le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La loi a été faite pour l'homme et non l'homme pour la loi. Toute loi, tout règlement qui écrase l'être humain n'est pas conforme au principe de Jésus qui prône la loi de l'amour et la grâce. Dans le texte, Jésus pose deux questions aux pharisiens. Première question, est-il permis de guérir une personne le jour de sabbat? Ils répondent par le silence. L'autre question, si vous... Si par exemple votre bête tombe dans un trou le jour de sabbat, vous faites comment? Ou votre fils, par exemple, est malade le jour de sabbat, tu fais comment? Une fois encore, c'est le silence. Parfois on dit qu'il y a des silences éloquents. C'est-à-dire qui parle. Souvent, nos silences viennent du fait que nous nous trouvons face à face avec notre conscience. Et notre conscience nous juge. Après l'épisode de la guérison, Jésus va s'adresser aux invités qui étaient avec lui à travers un genre littéraire qu'il aime bien et qu'il utilise souvent pour enseigner, c'est-à-dire la parabole. Jésus fait un constat. Des invités arrivent et chacun veut se mettre à la place d'honneur, la première place. Premier constat. Deuxième constat, Jésus fait regarder les invités et se rend compte que tous les invités sont les proches de l'autre. Où sont ses connaissances? Question. Quand on t'invite, comment te comportes-tu? Quand tu arrives quelque part, quelle est la place que tu choisis? Quand tu invites les gens, lorsque tu as un événement heureux chez toi, quelle est la composition de tes invités? Sont-ils tes proches, tes connaissances, tes amis, tes relations? En plus, on peut se demander, qu'est-ce qui motive souvent le choix de nos invités? Un ami, un jour, a perdu sa maman et je suis allé au deuil avec le paquet du deuil comme nous faisons chez nous. Et j'ai constaté qu'il y avait un registre dans lequel il consignait à la fois ce qu'on lui a donné et le nom, la nature de ce qu'on lui a donné et le nom de la personne. Est-ce que vous imaginez pourquoi il le faisait? Vous n'imaginez pas, mais je veux vous dire. Nous sommes dans un siècle de calcul. De calcul. Je suis sûr que quand on consigne ton nom avec ce que tu as donné, il y a un événement chez toi, on va consulter le cahier pour te rendre ce que tu as donné. C'est un peu ça.
Je suis sûr.
Et j'ai déjà vu. Quelqu'un apporte un carton de bon vin à son ami lors d'un événement. Quand son ami allait lui servir le vin qu'on fabrique ici au pays, il était très en colère. Quand on parle de la recherche de la première place, même nous les chrétiens, nous ne sommes pas épargnés. Même dans cette parole, vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui sait qu'il y a ma place. Si tu te trouves là et tu ne dégages pas, vous risquez d'avoir des problèmes. Quand nous les anciens, nous sortons souvent, on loue un bus pour se déplacer. Au moment, quand le bus arrive, vous pouvez imaginer la scène. Chacun veut occuper une bonne place. Si on regarde même maintenant, nous savons que dans notre pays, on achète même le poste, surtout pour être proviseur. Mais on ne veut pas être proviseur dans un coin perdu de la République. Il y a des coins, on sait que quand tu es proviseur là-bas, tu es la chèvre qui est attachée à un bon endroit où il y a les herbes grasses. Et même certains serviteurs de Dieu souhaitent, font tout pour être affectés ou placés dans les paroisses dites juteuses à tort ou à raison. Relevons que Jésus reconnaît qu'il y a des personnes plus considérables que d'autres. Il a dit dans le texte. Il dit que quand tu es invité, assois-toi à une place. Ne cherche pas à aller à la première place. Parce que si tu t'assois à la première place, il y a quelqu'un qui est plus considérable que toi. On va dire, frère, pardon, cède la place à monsieur tel, au général tel, ou au ministre tel, ou au député, au sénateur tel. Et tu vas avoir honte d'aller occuper la dernière place. Nous savons que dans le langage de Camerounais, il y a les termes comme le VIP. Il y a les termes comme certains sont nés avant la honte et d'autres après la honte. Qu'est-ce que Jésus nous prescrit ce soir? Premièrement, quand nous sommes invités, Jésus nous dit de nous mettre à la dernière place en attendant que celui qui nous a invités nous donne la place qu'il juge convenable pour nous, afin que nous ne n'essuyons pas la honte. Et la parole de Dieu ajoute, précise, car quiconque se lève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Le secret de l'élévation, c'est l'abaissement. Et la parole de Dieu nous dit, l'humilité précède la gloire. Il y a des cas, plusieurs cas de personnes dans la Bible qui ont essayé de s'élever, mais ils ont été rabaissés. Rabaissé à un niveau où on ne pouvait pas s'imaginer. Le roi Hérode, un jour, est en train d'haranguer la foule. Et la foule crie, voix d'un de Dieu. le texte nous dit que un ange l'a frappé et tout de suite les asticots est devenu la nourriture des asticots. Le grand roi Nabucodonosor, que le Seigneur avait béni, à un moment donné s'est mis à croire qu'il était Dieu. Ce qui lui est arrivé, il s'est mis à marcher à quatre pattes comme le bœuf et s'est mis à manger les herbes. Par contre, Joseph, à cause de son intégrité, parce qu'à cause du fait que dans la maison de Potiphar, il était soumis, il a été élevé en dignité. Le modèle parfait de l'humilité est sans conteste le Seigneur Jésus. Le texte nous dit, Philippiens 2, verset 111, je prends une portion, qui s'est abaissé, il s'est humilié, et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et devant ce nom, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, et sous la terre à la gloire de Dieu. Nous venons de voir, quand nous invitons, Jésus nous a prescrit de prendre d'abord la dernière place. Et maintenant, c'est quand nous invitons les gens, qui devons-nous inviter? La liste de ces personnes est citée dans le texte. Les êtres sont priés. C'est une catégorie de personnes qui ne peuvent pas nous rendre ce que nous avons fait. Parce qu'ils ne peuvent pas nous rendre. Le texte nous dit, parce que nous avons pratiqué la bienfaisance, elle nous sera rendue à la résurrection des justes. Pour nous dire que la bienfaisance est une semence. La bienfaisance est une semence. Ce soir donc, bien-aimé, le Seigneur t'invite, m'invite à nous soumettre aux exigences de sa parole, à adopter de nouvelles attitudes et à renoncer à certains normes de comportement qui risquent de nous priver des promesses excellentes qu'il réserve à ceux qui le craignent. À ce sujet, la parole de Dieu déclare, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. 1 Pierre 5, verset 6. Également, elle nous demande, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Galates 6, verset 9. Et le Seigneur nous dit enfin, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Jean 13, verset 17. Amen. Prions Dieu. Père, nous te disons encore merci parce qu'en cette soirée, tu as permis que tes enfants se retrouvent dans ta présence pour être nourris de ta parole. Père, nous te disons merci parce que tu nous instruis pour notre bien. C'est pourquoi, Seigneur, tu nous demandes de reformer notre manière de vivre et de confronter nos vies à ta parole. Père, comme à Josué, il nous dit ce soir que ce livre de la loi, que ces paroles de la vie ne s'éloignent pas de votre bouche, que nous puissions méditer afin d'agir fidèlement. Comme Marie, Seigneur, donne-nous de repasser tes paroles dans nos cœurs. Nous te donnons toute la gloire au nom de Jésus. Amen.